Oui. Dans l'actualité ce midi, on fera le point sur la situation chez Gaz de Tahiti après l'accident d'hier. On reviendra aussi à Afaïti, où des familles ne peuvent toujours pas rentrer chez elles et disent être dans le flou. Et pour terminer, l'élection de Miss France, c'est demain. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Après l'accident de hier jeudi, Gaz de Tahiti est toujours sous étroite surveillance.
Oui, 3 ouvriers blessés hier sur le site, tous de retour chez eux quelques heures plus tard. La zone bloquée pendant plusieurs heures, beaucoup de bouchons, une journée bien chargée donc pour Motu Uta hier. Vous le savez, c'est une partie du talus de la nouvelle sphère de Gaz de Tahiti qui s'est effondrée. Et depuis, le site reste sous surveillance, a expliqué l'entreprise ce matin. Elle a d'ailleurs annoncé que la deuxième partie du talus s'est détachée dans la nuit. Par ailleurs, tout va bien. Les contrôles n'ont révélé aucune fuite de gaz. Le plan réglementaire du site industriel reste actif et la zone portuaire est toujours sous vigilance. Les travaux commencés jeudi suite à l'accident continuent, notamment le déblaiement pour enlever les 1500 m3 de sable qui se sont effondrés depuis la sphère. Un talus qui sert à végétaliser la sphère pour que celle-ci ne chauffe pas, comme l'explique la secrétaire générale de Gaz de Tahiti, Judith Siou.
Bah écoutez, une sphère sous talus, on en a une déjà. Ça, c'est la deuxième. On a une autre sphère qui a été faite ailleurs. C'est un système standard qui existe dans le monde. Et c'est la première fois que ça arrive, en tout cas à Tahiti. C'est pas la technique qui est en cause. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire à ce stade.
Voilà, une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de cet accident. Et ce matin, Gaz de Tahiti n'a apporté aucun nouvel élément à ce sujet.
On revient aussi sur un autre accident. 10 jours après l'éboulement de Afaïti, des riverains ne peuvent toujours pas rentrer chez eux.
Oui, un drame qui a fait 8 morts, vous le savez. Certaines maisons les plus proches de l'éboulement sont toujours fermées et interdites d'accès par mesure de sécurité. Les propriétaires et locataires qui vivaient là ont donc d'abord dû être relogés. Mais certains se sont retrouvés dans des logements sans équipement et d'autres n'avaient pas de logement à cause de leurs animaux de compagnie.
Ce qui nous bloque, nous, c'est le fait qu'on ait des chiens. Donc l'OPH a bien voulu nous reloger, mais sans les chiens. On peut comprendre que l'OPH a des consignes claires sur les logements qu'il propose. Pour autant, je pense qu'il y a des familles qui ont des chiens, qui ont des animaux. On aurait aimé un peu plus de compréhension. Actuellement, on est logé par une dame qui nous a hébergés gracieusement. Mais quand même en difficulté. Là, on doit rendre notre logement lundi. Donc, d'ici lundi, s'il n'y en a rien pour se mettre sous les toits, ça va être compliqué. Ouais.
Alors, heureusement pour cette famille, des solutions ont fini par arriver. La DSFE a proposé un logement, leur a proposé un logement hier et avec leurs animaux. La présidence assurait aussi que la DSFE devait joindre les familles mises dans des logements vides pour trouver une autre solution. C'est l'arrêté d'évacuation aussi que beaucoup attendaient pour faire leur démarche administrative, suspendre les abonnements internet d'été et peut-être aussi les prêts bancaires. Il a fini par sortir hier, mais que se passera-t-il pour ces familles? Pourront-elles revenir dans leur maison? Difficile de se projeter.
L'idée, c'est de repartir sur une location en attendant, mais si les charges restent les mêmes, ça va être très compliqué. Quoi. Et pour autant, on n'a pas d'infos derrière, donc on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et c'est troublant, c'est frustrant, c'est même le stress, il est là, quoi. Donc on n'arrête pas, on passe un peu pour des clients, on change, on dit, pour des résidences, c'est tous les services, on repasse chaque jour, on vient, on montre qu'on est présent pour justement pour pas qu'on nous oublie, quoi.
10 jours après l'éboulement, les propriétaires des maisons de la zone s'inquiètent de la suite. Comment retrouver des locataires? La commune va-t-elle changer le plan de prévention des risques? Est-ce que leurs maisons vont être détruites et cette zone classée non constructible? Du côté de la présidence, on dit effectivement que tout est possible. Seuls les experts pourront donner des réponses à ces questions. Mais aujourd'hui, on ne sait pas quand leurs conclusions seront rendues. La présidence a dit comprendre l'inquiétude des gens, mais elle est obligée d'attendre les conclusions des experts pour décider de la suite.
Dans le reste de l'actualité, on parle aussi de l'OPT qui perd son monopole sur l'offre satellitaire.
Oui, c'est le sens d'un projet de loi du pays qui était étudié hier par le CESEC qui a rendu un avis favorable à ce texte. Un texte qui prévoit donc la prochaine modification du code des postes et télécommunications. De nouvelles règles qui vont permettre d'ouvrir le marché à des opérateurs satellitaires sur les zones mal couvertes ou non couvertes, Caroline Perdry.
Oui, Lucie, il s'agit de réduire le périmètre du monopole légal de l'OPT sur l'acheminement des signaux entre la Polynésie française et l'international. L'opérateur public restera l'acteur principal des câbles sous-marins internationaux, mais le texte ouvre le marché à d'autres catégories d'opérateurs, de satellites, d'atterrage ou d'entreprises polynésiennes de téléphonie. Cette modification crée les conditions de l'implantation du réseau satellitaire basse orbite satellite Eutelsat OneWeb, dont le déploiement a commencé avec du retard et qui doit couvrir 32 îles éloignées d'ici à septembre 2026.
Ouvrir le marché mais aussi le réguler, on retrouve ici les trois zones utilisées pour l'itinérance téléphonique. L'offre satellite ne sera autorisée que dans les zones mal couvertes ou pas couvertes du tout par les câbles sous-marins. Des dérogations seront possibles notamment pour la sécurité aérienne et maritime ou pour des situations d'urgence ou de secours. Tout acteur international qui souhaite s'implanter en Polynésie devra créer une filiale locale. Pas moyen comme ça d'échapper au contrôle des autorités ou à la fiscalité locale. Et de cette autorisation dépendra aussi la capacité à importer des équipements de raccordement et Starlink dans tout ça.
Starlink devra aussi suivre cette procédure s'il cherche à s'implanter en Polynésie. Rien n'indique que l'entreprise d'Elon Musk ait envie de s'y plier, particulièrement pour un si petit marché. Le CESEC a souligné que même cette approche pourrait rapidement être rendue obsolète par le développement de son service Direct to Cell, qui permettra à un smartphone de se connecter au satellite sans équipement supplémentaire.
En attendant donc ces nouvelles avancées technologiques, le CESEC a rendu un avis favorable au projet de loi du pays.
Allez, un peu d'agenda pour ce week-end.
Oui, on commence avec le salon de Noël, Te Noera a Te Rimai, qui commence aujourd'hui. C'est au parc expo de Mamao, Te Feifei, bijoux, vannerie, sculptures, objets décoratifs, accessoires ou prêt-à-porter. Plus d'une soixantaine d'artisans proposent leurs plus belles créations. L'occasion de trouver un beau cadeau artisanal et local. Et tous les samedis, un défilé de mode sera organisé pour découvrir des tenues, des bijoux et des accessoires. C'est jusqu'au 24 décembre. Ces portes ouvertes aussi à la fourrière de Punaoya, le SICFA veut faire découvrir le refuge et pourquoi pas inviter les familles à adopter un compagnon. Oh, un autre cadeau de Noël, hein, possible. C'est de 8h à midi dans la zone industrielle de la Punaru.
Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale des bénévoles, mais elle sera fêtée demain à Tahiti.
Oui, avec le lancement officiel de recherche de volontaires pour Tahiti 2027. On en a parlé déjà cette semaine et demain, donc, on pourra faire du sport. Plein d'activités, se mettre aussi dans la peau d'un bénévole. Ce sera au parc Paofei à partir de 9h. Le Téléthon commence aussi officiellement demain. Vous pouvez faire des dons déjà sur la plateforme Anavei, mais aussi acheter un beau t-shirt. Ils seront en vente à l'entrée des magasins Carrefour tout le week-end et au Hyper U de Pierret dimanche.
Et demain, c'est aussi la finale du Hurrah Tapairu.
Après deux semaines de concours, dernière ligne droite pour les groupes locaux. C'est à partir de 14h au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. La soirée est complète, enfin l'après-midi est complète, mais il est possible de la suivre en live streaming payant. Il faut aller sur la page Facebook du Hurrah Tapairu pour toutes les infos.
Et on termine quand même avec cette autre grande de finale, l'élection de Miss France.
Voilà, Hina Opoku de Vez, bien sûr, la grande favorite, donnée gagnante selon le classement de Paris Match ou première dauphine aussi pour une intelligence artificielle qui a fait des pronostics. Miss Tahiti est la candidate la plus suivie sur les réseaux sociaux, plus de 26 700 abonnés sur Instagram.
Voilà.
Thème de la soirée, le voyage des Miss, comme d'habitude, plein de tableaux et parmi les moments attendus, le passage en maillot de bain, le costume régional. Pour Miss Tahiti, ce sera un ensemble patoutiki signé d'Hélène Coudray, designer récemment présentée à la Fiji Fashion Week. La directrice du comité Miss Tahiti, Leyana Fojra Dang, a dit à nos confrères de la première que tout simplement, il visait le top 1, n'est-ce pas Sanchez?
Bien sûr.
Voilà, largement. Pour l'occasion, la présidence ouvre ses portes. L'événement sera diffusé en direct sur grand écran à partir de 10h demain matin et bien sûr, nous y serons.
Mais oui, effectivement.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne
Hina
chance, Hina Opoku. On est avec toi, retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour les infos. Maintenant, voici la météo sur Radio.